en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de Alain-Charles Perrault, élu membre de notre Académie dans la section d'architecture, le 27 février 2013, au fauteuil précédemment occupé par Christian Langlois. La parole est à Monsieur Hugues Gall.
Monsieur, de nombreux amis vous attendent en ces lieux. Les premiers que j'aperçois ici sont les vrais amis d'un architecte restaurateur qui s'est attaché aux grands monuments de notre pays. Voici Louis Levaux, à qui Colbert commanda ce collège des Quatre Nations, qui vous accueille aujourd'hui à ses bras ouverts. Ce Louis Levaux, avec lequel vous dialoguiez hier matin encore, dans le chantier de l'hôtel Lambert. À ses côtés, voici l'ombre de Salomon de Brosse, qui devança Levaux comme premier architecte du roi. C'était avant la création de l'Académie royale d'architecture. Ce Salomon de Brosse, avec lequel vous avez eu des conversations passionnées, tandis que l'on posait sur son parlement de Bretagne, que vous sauviez, monsieur, cette charpente de métal rouge qui stupéfia toute la France. Ces événements ont frappé les esprits. C'est, je crois, la première image de vous que je conserve dans ma mémoire. La Bretagne grondait. Les marins pêcheurs voulaient faire tomber le Premier ministre, comme aux plus belles heures de la Régence. Rennes avait brûlé déjà en 1720, mais des coupe-feu alors avaient permis de sauver l'édifice de Germain Gauthier et de Salomon de Brosse. Une malheureuse fusée, durant cette nuit de février 1974, atteignit le toit. Quelle horreur, quelle merveilleuse horreur. Cet incendie vous a permis de démontrer très vite votre talent, vos compétences. Il a été, j'ose le dire, pour vous, un élément tragique, mais fondateur. Les pompiers évacuaient les peintures de Noël Coypel et de Jean-Baptiste Jouvenet, les tapisseries, ce qu'on pouvait encore sauver du décor intérieur. Vous êtes arrivé, disponible, attentif à tout. Vous avez tout de suite pris la mesure du désastre et imaginé ce que vous alliez faire pour que ce bâtiment puisse revivre. Grâce à vous, non seulement le Parlement de Bretagne a retrouvé sa grandeur, mais il peut aujourd'hui conserver son sens, puisque vous avez profité de ce drame pour le doter de tous les équipements modernes indispensables. Et c'est pourquoi je voulais prononcer, après le nom de Louis Levaux, celui de Salomon de Brosse. Ils ont en vous plus qu'un admirateur, un allié. Plus près de nous, je vois apparaître ici, à vos côtés, Charles Garnier. Oui, Charles Garnier, membre de notre Académie en 1874, non loin de ses amis, les peintres Jules Le Neveu et Paul Baudry. Ces trois-là, nous les avons rencontrés ensemble. Nous les avons vus, vivants, comme aujourd'hui, courant sous les plafonds et sur les toits de l'Opéra de Paris. Je veux citer encore les noms d'Henri de Glane, élu en 1918 à l'Académie des Beaux-Arts, auteur d'une partie des façades et des nefs du Grand Palais, et de Charles Giraud, élu dès 1902, qui avait coordonné les travaux, des travaux que vous avez su poursuivre en vous mettant dans leurs pas et en vous laissant guider par leurs regards. Tous ont siégé ici. Ils vous accueillent parce que vous avez su prolonger leurs œuvres. Ils vous souhaitent la bienvenue parce qu'ils risquaient d'être des fantômes condamnés à hanter les restes de leur création et que vous les avez rendus à la vie. Tous ces grands noms, monsieur, vous doivent quelque chose. Aujourd'hui, vous voici des leurs, et tous m'ont chargé de vous poser cette question que peut-être vous vous êtes posée à vous-même au moment où vous vous engagiez dans cette carrière. Pourquoi, oui, pourquoi s'intéresser avec tant de passion aux monuments du passé quand on est un jeune architecte de talent, avec la fougue qui est la vôtre, que n'avez-vous plutôt regardé l'avenir ? Les grands architectes restaurateurs, qu'on a si longtemps taxé de n'être que des épigones ou des pasticheurs, ont été, vous le savez, des créateurs, des rêveurs qui ont réinventé des mondes disparus. Vous trouverez ici de grands devanciers qui se sont sans doute posés, eux aussi, dans leur jeunesse, cette question fondamentale. Félix Duban, qui occupa le fauteuil de François Debré, leur chef-d'œuvre, l'École des Beaux-Arts, se trouve sur ce quai, et les membres de cette académie continuent à y être très attentifs malgré la dureté des temps. L'heureux Duban restera Blois. Il en fit un palais magique, véritable cours d'architecture donné avec des pierres. Car restaurer un édifice, c'est restaurer son sens, c'est le comprendre, c'est aider les visiteurs à en pénétrer l'histoire. Avec Paul Abadie, le grand homme du néo-roman, qui attacha son nom à la cathédrale d'Angoulême, vous vous sentirez aussi en bonne intelligence. Tous ces héros de l'éclectisme ont su se nourrir du passé. la compréhension intime de la tradition, l'art subtil de la citation bienvenue, l'élégance d'une allusion venant orner les pierres, voilà ce qu'ils vous ont appris. Vous retrouverez ici, aujourd'hui, de grands restaurateurs qui ont contribué à faire évoluer doctrines et pratiques. Votre ami, notre confrère, Yves Boiret, reçu ici par le grand Marc Saleté, qui fit retentir ce jour-là, sous cette coupole, les noms de Viollet-le-Duc, qui, je ne sais pourquoi, n'a pas été des nôtres, de Geoffroy de Chaume, son compagnon sculpteur sur le chantier de Notre-Dame, et d'Émile Boisvillewald, l'homme qui réinventa parmi d'autres réussites la cathédrale de Laon. Non content d'en colmater les lézardes, il y ajouta un crocodile et d'autres animaux exotiques traités dans le plus pur style médiéval, souvenir, dit-on, de l'exposition universelle de 1855. Manière aussi de faire savoir, avec humour, qu'un restaurateur de monuments est toujours, volens nolens, un homme de son temps. Viollet-le-Duc était un novateur, un inventeur. Certaines planches extravagantes de ses entretiens sur l'architecture démontrent une modernité virtuose. Il était capable d'imaginer un wagon de chemin de fer pour le train impérial, aussi bien que l'étonnante cathédrale de Lausanne, d'imaginer des chalets face au Mont Blanc ou le bel immeuble de la rue Condorcet, si pratique pour lui et pour son agence, avec ce célèbre grand-duc, son totem sculpté entre deux larges baies. Quand il crée parmi les monstres chimériques et les gargouilles de Notre-Dame ce strige qui domine Paris, cette figure séduit Charles Mérion, il en fait une gravure qui illustra Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et le chapitre dans lequel se déploie, comme dans un panorama, Paris à vol d'oiseau. Son strige, pure fantaisie dans le goût médiéval, photographié par Charles Nègre, devint non seulement la figure la plus populaire de la cathédrale, mais l'image même du Moyen-Âge tout entier. Cette fiction de l'architecte restaurateur, qui recompose la quintessence d'un monument et du style d'une époque, vous vous en méfiez. Si Napoléon III vous eût confié les ruines de Pierrefonds, vous eussiez sans doute été plus historien que Viollet-le-Duc, plus scrupuleux, plus attentif aux réalités archéologiques. Vous n'auriez pas inventé de chimères, mais avec votre science du passé, comme sur le chantier du Parlement de Bretagne, vous auriez su faire de ce château fort un monument adapté au temps présent. Vous aussi, aujourd'hui, vous inventez. Mais vos striges seront des objets d'art du XXIe siècle. Vos projets pour Doha ou Bagdad sont superbes. Ils montrent que vous entrez aujourd'hui dans une phase nouvelle de vos travaux. Votre expérience de restaurateur, cette longue assaise, vous a rendu libre. C'est un artiste plein de vie et d'invention que nous accueillons aujourd'hui et dont les édifices à venir exigeront, dans quelques siècles, les soins d'un Alain-Charles Perrault du futur qui se réclamera de vous. Ce sens de la continuité semble inscrit dans votre généalogie académique. Le fauteuil que vous occupez a été ainsi celui de Jean Rondelet, le continuateur de Soufflot au Panthéon, d'Alphonse de Gisors, qui restaura avant vous le théâtre de l'Odéon et sut se montrer moderne en bâtissant ce temple des lettres et des sciences, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et à votre place siégea aussi Joseph Vendremer, qui, après s'être essayé à l'historicisme en bâtissant l'église Saint-Pierre de Montrouge, modernisa l'architecture des prisons et des lycées, un patrimoine longtemps dédaigné, jusqu'à ce que des expositions de nos voisins du musée d'Orsay nous permettent de comprendre que c'était peut-être là le cœur de ce XIXe siècle que vous aimez tant. Ce fauteuil fut aussi, et je sais que cela vous touche, celui d'Emmanuel Pontremoli, l'homme qui, pour le génial Théodore Rénac, réinventa une Grèce idéale à la Villa Kérylos, là où nos confrères de l'Académie des inscriptions et des belles lettres organisent des colloques qui sont, à leur manière, la résurrection du passé. Jacques Carlu s'assit ensuite dans ce septième fauteuil. Vous aimez de lui, je le sais, le palais du Trocadéro, cette belle réponse française démocratique aux architectures totalitaires. Carlu joua un rôle très important à l'Académie des Beaux-Arts. Il donna un sens nouveau au musée Marmottan, et c'est lui qui accueillit le lait de Michel Monet et fut à Giverny le prédécesseur de Gérald van der Kemp, ce qui me touche. Mais il est aussi, ce Carlu, celui qui fut l'auteur en 1968 du Théâtre national de Bretagne, dans lequel vous avez eu durant des années tant de plaisir à venir et que les Rennais ont appelé le Grand Huit. Si j'insiste sur ces mirobolantes généalogies, montagnes russes, Grand Huit et carambolage entre les époques, c'est parce que vous aimez l'idée d'être un amoureux du passé dans sa multiplicité. Être un continuateur ne vous paraît pas sans noblesse, c'est votre audace. Je crois comme vous que le passé est infiniment plus intéressant que le présent, et même que l'avenir. Personne n'ose jamais le dire, de peur d'avoir l'air réactionnaire ou démodé. Lorsque je vous ai vu arriver au Palais Garnier, j'ai compris que je retrouvais un frère d'armes. La tâche était difficile. Vous succédiez à mon ami, le talentueux Jean-Loup Roubert, qui avait veillé sur ces lieux très longtemps avec une grande intelligence. Vous arriviez d'un hôtel particulier de la place Vendôme, qui, grâce à vous, venait d'être remis en marche pour 2 ou 3 siècles, à la demande du sultan de Brunei. Vous aviez l'élégance, la jeunesse, la bonne mine qui caractérisait Charles Garnier. Vous étiez un garçon de votre temps, décidé à vous battre pour des monuments du passé. Nous nous sommes compris tout de suite. Dans cette maison, sur laquelle j'avais alors mission de veiller, il fallait agir avec un respect infini. Nous avons travaillé au cœur de cette œuvre d'art, heureux de piocher dans toute la palette des brèches et des marbres pour rendre sa polychromie à la façade, d'y placer enfin sur les cartouches vides le chiffre de Napoléon et d'Eugénie, d'y faire retisser brocart, passementerie et lambrequin, de restaurer les candélabres de la loggia et d'éliminer l'inutile comme ce lustre massif qui avait été imposé au nom de la contemporanéité à la rotonde des abonnés. Moi, qui suis sujet au vertige, je vous accompagnais sur les toits avec vos compagnons et artisans pour bien comprendre ce qu'il fallait faire. Je tremblais en me répétant, je suis leur chef, avançons. Vous m'avez appris une forme de courage et d'humilité. Au Palais Garnier, aujourd'hui, en apparence, rien n'est de Perrault. Voilà votre vraie gloire. Vous avez été l'homme invisible, bravant le snobisme facile du geste architectural contemporain qui fait tant parler les sots. Vous avez été vous-même, en n'ajoutant rien, en ne retranchant rien à l'œuvre totale voulue par Charles Garnier. Reste un combat que nous avons perdu ensemble à l'époque, redonner à la salle, violée par l'ordre d'André Malraux, ce plafond aux couleurs si chaudes et si subtiles, peint par Jules Lenepveu, et dont le modello se trouve au musée d'Orsay. Ce combat, chers confrères, nous le mènerons peut-être à nouveau, prenons-en aujourd'hui l'engagement, parce que je suis aussi un admirateur de Chagall, et parce que je trouve injuste pour sa postérité que ce plafond bigarré soit désormais son œuvre la plus célèbre. Il serait si beau, ce plafond, dans la nouvelle salle de la Philharmonie. Quel magnifique symbole ce serait que la translation de cette relique bariolée pour la consacration à Paris de la future cathédrale de la musique. Et le Palais Garnier retrouverait, dans la lumière dorée de son lustre, la ronde enchanteresse des heures du jour et de la nuit. Cette vérité du monument à laquelle vous consacrez votre vie, donnant un sens architectural à la devise de Jean-Jacques, « Vitam imprendere vero », vient, je crois, de votre vision du monde. Je vous vois au centre de votre œuvre comme un créateur, alchimiste, jouant avec les quatre éléments pour faire de l'or avec la boue du quotidien, les débris des révolutions et l'usure des temps. Vous êtes d'abord un homme de la terre, votre premier élément. La terre, pour vous, c'est cette terre de Corse, où votre grand-père s'installa dans les années 1920 et qui, aujourd'hui encore, est la vraie patrie de vos enfants. Votre grand-père, dessinateur industriel, de qui vous tenez la sûreté de vos dessins et l'excellence de vos plans, était aussi un inventeur. Il mit au point le freinage sur roue avant des automobiles. C'était avant 1918. Son fils, votre père, ingénieur à Centrale, dans la même promotion que Boris Vian, cultivait le dandysme des belles cylindrées et des matières et des diplômes qui ne servent à rien. Il sera licencié de tout, de droit, de philosophie, de lettres, de mathématiques, mais ce pic de la Mirandole, fervent lecteur de Paul Morand, n'aimera rien tant que les Bugatti, la séduction et subsidiairement la pétrochimie. Vous faites rouler encore, en souvenir de lui, cette 403 cabriolet de couleur jaune de Naples, jolie comme une porcelaine, avec laquelle vous débouliez ensemble vers la Côte d'Azur. Est-ce au cours d'une de ces virées, sous le soleil, que vous avez avoué à votre père que vous ne seriez pas ingénieur, mais que vous vouliez entrer à l'école générale, à l'école centrale d'architecture? Vous êtes aussi placé sous le signe de l'air. Votre deuxième élément, héritage sans doute de votre grand-père maternel, Robert Josse, qui pendant la Grande Guerre fut pilote d'escadrille. De votre mère, sportive, intrépide, vous avez hérité la passion du ski et l'amour des cimes, et je vous ai vu planté sur les campaniles de la salle Garnier de Monte-Carlo, amoureux du paysage sans lequel aucun monument n'existe totalement. Vous m'avez raconté votre arrivée dans une pirogue aux couleurs de l'administration, inspecteur général des monuments historiques en Guyane, inaugurant une mairie qu'on avait bâtie en parpaing, comme si l'on se trouvait dans une banlieue de métropole, dans ce village perdu de la jungle, le long du Maroni, et je vois heureux d'atterrir à Maripasoula après avoir survolé la canopée. Vous m'avez raconté comment vous vous êtes retrouvé enfermé dans le fort Lalatte, en Bretagne, à la suite d'une coupure électrique qui en avait bloqué le pont-levis, maudite modernisation des monuments historiques. Et comment, en accrochant une corde au merlon des remparts, semblable à Kirk Douglas dans le film des Vikings, vous avez pu vous enfuir, suspendu au-dessus des flots. Je crois même qu'aujourd'hui, vous avez hésité à entrer ainsi sous la coupole, avec toujours le même panache. En 1968, vous rêviez d'être peintre, et vous avez même exposé avec succès. Architecte, l'année suivante, vous avez découvert le Texas, où vous avez obtenu le Master in Architecture de la Rice University. Comme l'amour du passé ne rend pas passéiste, vous avez découvert Houston, la NASA au temps d'Apollon 13, les forages pétroliers, le Mexique encore sauvage, et Brasilia dont la construction s'achevait. L'architecture de Niemeyer pouvait vous plaire, avec ses courbes et ses verticales inscrites dans la nature plane. Il était, dans ces années-là, l'architecte par excellence. C'est au retour, comprenant que votre destin n'était pas de construire, dans les zones industrielles de la France, des Trente Glorieuses, des hangars et des entrepôts, que vous avez osé enfin assumer votre amour du passé et des monuments historiques. La mer est peut-être autant que l'air l'élément que vous aimez le mieux. Vous aimez naviguer, plonger, nager, et vous trouverez ici quelques compagnons, je pense, au cher Jacques Rougerie. C'est au tournant de la trentaine que l'homme de la Méditerranée que vous êtes s'est mis à aimer la Manche et l'océan. Après le concours, vous aviez utilisé un pendule pour choisir sur la carte votre circonscription, parmi celles que proposait le ministère de la Culture, et un magnétisme bénéfique vous avez poussé à demander la Bretagne contre l'avis de ceux qui croyaient encore cette région un peu en marge dans l'histoire trop souvent écrite à Paris du patrimoine de la France. La Bretagne était faite pour vous. Pendant 10 ans, vous y avez appris votre vrai métier avec des compagnons au caractère trempé qui vous ont enseigné que l'architecture, ce n'est pas seulement jouer avec des idées, C'est d'abord une série de techniques, des rencontres avec des professionnels, des compétences et des outils. Vous vous comparez souvent à un chef d'orchestre. Vous en avez l'autorité, mais vous avez aussi l'humilité de celui qui sert avec ferveur une partition écrite par un autre, qu'à chaque fois, il faut réinventer. Ce métier affiné en Bretagne, vous l'aviez mis en pratique ensuite sur d'extraordinaires chantiers, au Palais Royal, au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, à la Comédie Française, au Théâtre du Palais Royal ou dans les immeubles classés de la Banque de France. Je vous ai suivi de loin, à travers les croisées de la salle Parodie, et j'ai vu que vous mettiez cette obstination toute bretonne, cet entêtement corse, cette volonté irréductible du gamin de Paris que vous êtes, à restaurer l'hôtel Matignon, le pont Neuf, Saint-Eustache, Saint-Roch, l'église de l'Assomption, le palais de justice. Dans tous ces lieux, il n'y a pas un style Perrault, ce qui vous ferait horreur. Il y a un esprit Perrault qui vous honore. Tous ces monuments, vous les avez remis à flot, comme de vieux gréements. Au théâtre, vous ajoutiez les équipements les plus contemporains mais invisibles. À l'hôtel particulier, vous donniez le confort. À l'église, vous confériez une ordonnance compatible avec le culte d'aujourd'hui. À chaque fois, vous ne restaurez pas que les pierres, vous restaurez les usages, ceux qu'exige la vie du monde actuel. Vous permettez à ces navires de continuer à affronter la mer, vous pérennisez leur âme. Votre vision, si pragmatique, tellement technique, est d'abord une vision d'artiste. À l'opéra, restauré par vous, l'opéra est intégralement de Garnier, mais sans Perrault, on n'y ressentirait plus ici et maintenant cette émotion que Garnier avait tant désirée et qui s'était peu à peu estompée. Et l'émotion que nous vous devons, avant que le rideau se lève, ce n'est pas le rêve d'une nostalgie historique, c'est une émotion d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, selon moi, vous êtes un créateur et un artiste, voilà pourquoi, jeune architecte, vous avez sans nul doute choisi la bonne voie en devenant restaurateur, c'est-à-dire créateur, comme Viollet-le-Duc, comme Duban, comme Abadie. Et puis, hélas, il y a le feu. Un voyant vous avait prédit jadis, semblable à la bohémienne qui avait affirmé à la petite Joséphine détachée de la passerie qu'elle serait plus que reine, que vous alliez souffrir à cause du feu, mais qu'il en résulterait, malgré toutes les destructions, de bonnes choses. Le cimier de votre casque, si vous étiez un de ces preux sculptés sur la cheminée de Pierrefonds, porterait un phénix, ou peut-être, comme sous François Ier, une salamandre héraldique. Le feu détruit, mais il fait partie de l'équilibre du monde. Il n'est pas de théâtre dans l'histoire qui n'est brûlé. Le palais Garnier n'est-il pas là grâce à l'incendie de la rue Lepelletier? La salle Favart dont vous vous êtes occupé n'est-elle pas née, elle aussi, de ses propres cendres, après cette tragique représentation de Don Juan en 1838, où les flammes de l'enfer quittant la scène avaient envahi la salle. Reconstruite, la salle brûla à nouveau en 1887, pendant le premier acte de Mignon, que les théâtres par superstition hésitent depuis lors à programmer. Chacun a enfin en mémoire cette nuit funeste que j'ai évoquée, durant laquelle brûla le Parlement de Rennes. Tout dernièrement, alors que votre œuvre s'achevait à l'hôtel Lambert, un terrible incendie ravagea d'inestimables décors. La chance du Parlement de Bretagne, la chance de l'hôtel Lambert, dans leur malheur, c'est qu'un homme comme vous soit là, au bon moment, si j'ose dire, pour intervenir et pour rebâtir. J'ai connu l'hôtel Lambert. L'hôtel Lambert d'autrefois, au milieu des fêtes, que donnait dans ce fastueux caravansérail Marie-Hélène et Guy de Rothschild et aussi Alexis de Rédé, on y croisait sous les plafonds de Lebrun, Vermeer, Rubens et M. Ingres, notre confrère, on y pratiquait l'art de la conversation, comme si l'on y avait restauré, en plein XXe siècle, le XVIIIe. J'ai revu ensuite cet hôtel Lambert sans chandelles, sans meubles, sans cuir de cordoue au mur, sans tapisserie, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher à sa légende. Je sais que vous y avez fait des merveilles et qu'après l'incendie, malgré d'inestimables pertes, vous êtes là pour que, bientôt, ce lieu retrouve les fêtes, les rires et les concerts. Ce sera un nouveau chapitre de son histoire. À l'hôtel Lambert, vous rendez la vie. Il vous faudra aussi quitter la plus belle maison de Paris quand ce chantier sera achevé. C'est la difficulté et en même temps le romantisme de votre métier. À chaque fois, vous avez dû partir. Le travail accompli, quitter l'Opéra, le Grand Palais, le Palais Royal, tous ces bâtiments merveilleux où vous vous étiez installé et que vous aimez. Ici, dans ce palais de l'Institut, soyez sûr que vous entrez dans des murs que vous ne quitterez pas et qui ne vous quitteront plus. Je vous présente votre nouvelle maison, monsieur. Elle a une âme et je sais que déjà, vous êtes d'intelligence avec elle. Soyez donc le bienvenu parmi nous, monsieur. Vous qui êtes un homme de la terre, de la mer, des cieux, vous que le feu a marqué dans sa chair, vous qui savez que pour l'architecte, les quatre éléments qui composent l'univers ne sauraient suffire, s'il y manque cette dimension que vous maniez avec une inventivité, une créativité merveilleuse, cette dimension qui nous échappe, qui nous rattrape, mais qu'en ces lieux dédiés à l'immortalité, nous prétendons défier cette image émouvante de l'éternité que l'on appelle le temps. Je vous remercie.
Mon cher confrère, je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Alain-Charles Perrault.
Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Fierté. Fierté. Dans ce moment éphémère et si fort, de vivre l'honneur qui m'est donné d'être reçu ici, au sein de votre assemblée que j'admire, et qui consacre ses travaux au développement de l'art, de notre culture et à la défense de celle-ci. Gratitude. Gratitude pour l'accueil que vous me faites et les termes que je ne mérite sans doute pas, monsieur, mais que je reçois avec délectation. Fierté, gratitude, humilité. Humilité vis-à-vis de tous ces artistes qui se sont succédés sous cette coupole depuis plus de 2 siècles. Répondant à votre évocation, monsieur, je retrouve ici, avec vous tous, les grands architectes académiciens qui m'ont accompagné et que je me suis efforcé de servir en restaurant leurs œuvres. En premier lieu, Louis Levaux, qui a conçu l'ensemble de cette chapelle avec son élégante coupole sur plan ovale, Louis Levaux, dont l'une des œuvres de jeunesse fut l'hôtel Lambert. Charles de Vailly, qui, avec son ami Marie-Joseph Père, va construire le théâtre de l'Odéon. Jean-François-Thérèse Chalgrin, qui va le reconstruire lors de son incendie et restaurer le palais du Luxembourg après que la Révolution française l'avait transformé en prison. Charles Percier et Pierre-François Léonard Fontaine, qui ont transformé, aménagé et terminé l'ensemble que constitue aujourd'hui le Palais Royal, construit initialement par Victor Louis. Félix Duban, qui, avec son ami Lassus, va restaurer et mettre en valeur le décor initial de la Sainte-Chapelle. Charles Garnier, qui m'accompagna pendant plus de 10 ans, mon confident, mon ami, auquel je venais proposer mes choix au sein de longues méditations pour lui demander avis et conseils, en cherchant à me relier à son art pour retrouver et faire renaître la vibration qui habite son œuvre et la connecte avec notre âme, comme nous l'avons si bien vécu ensemble. Lui, qui fut l'architecte du nouvel opéra à Paris, de l'opéra de Monaco, et président du jury lors du concours pour le choix des architectes du Grand Palais. Les architectes qui se sont succédés sur ce fauteuil numéro 7 et que je connais bien. Rondelet, dont les ouvrages m'ont accompagné. Molinos, l'architecte de la Halle au Blé, avec son immense coupole en charpente de bois, située à l'entrée des Halles, qui a laissé la place à la Bourse du Commerce, dont j'ai restauré la verrière et les décors. Enfin, Alphonse de Gisors, puis Christian Langlois, qui, à la suite de Salon de Brosse et de Chalgrin, dédièrent une grande partie de leur vie au Palais du Luxembourg. Tous ces confrères que j'ai servis, admirés, avec lesquels je me suis entretenu par la pensée, par l'esprit, par l'émotion, et dont je sens aujourd'hui la présence parmi nous. Je n'ai pas eu le plaisir de connaître personnellement Christian Langlois. Pour faire son éloge et pour découvrir l'homme qu'il était, au-delà de son œuvre professionnelle, je me suis livré à quelques recherches. Christian Langlois, en habit d'académicien, quittant le Sénat dans sa Jaguar cabriolet décapotée pour venir retrouver ses pairs. Les fonctionnaires du Sénat s'en souviennent encore avec émotion, une certaine tendresse et des sourires complices. C'est que Christian Langlois est un personnage, c'est un artiste. C'est un homme qui dédia toute sa vie à l'art et à la beauté, sous toutes ses formes. Toute œuvre d'art, écrit François Scheng, en son état le plus élevé, est résonance d'âme à âme avec les autres êtres et avec l'être. C'est la manière pour chaque créateur de dépasser l'espace-temps, de transcender la séparation et la mort. Il vit non la communication, mais la communion. Et c'est à ce niveau que notre confrère Christian Langlois a mené le combat de toute une vie pour défendre la beauté. Car pour lui, la beauté et l'art sont indissociables. Chaque chose qui le touchait faisait l'objet de sa part d'une démarche, d'une recherche profonde et aboutie. Lorsque nous passons devant l'obélisque de Louxor, place de la Concorde, nous ressentons dans le profond de notre être les attaches sacrées qui nous lient à la civilisation égyptienne. Nous pensons à cet art si proche et d'une beauté si universelle. Puis la circulation reprend son rythme et nous repartons vers d'autres pensées. Christian Langlois, lui, s'est passionné pour cette culture. Il a appris à lire les hiéroglyphes, à les écrire, jusqu'à obtenir le diplôme supérieur des langues eaux anciennes. Nous avons tous rêvé d'écrire des poèmes, des nouvelles, des romans. Christian Langlois, lui, sera écrivain. Il produira des études, comme « Y a-t-il un nombre d'or ?» auquel il répondra d'ailleurs non. Des romans, comme « Le papyrus de Ramsès ». Des articles, comme « Y a-t-il un avenir pour la beauté ?» mais aussi plus drôle et très grinçant, « Comment j'ai tué ma belle-mère ?» Nous aimons la musique, elle nous transporte dans d'autres univers ou simplement nous distrait. Christian Langlois, lui, dès son plus jeune âge, apprit à jouer du piano auprès des plus grands maîtres, puis l'art de la composition, de la fugue et du contrepoint avec Chalas. Mais sur les conseils de Messiaen, il se détourna du conservatoire. Il continua cependant à composer tout au long de sa vie et resta un véritable musicien. Nous aimons le cinéma, cet art qui nous ouvre si facilement ses portes. Christian Langlois, lui, créa un atelier de prise de vue pour les métiers du cinéma et réalisa lui-même plusieurs courts-métrages, dont Le tombeau d'Orphée, vibrant hommage à Piranèse. La radio nous distrait, nous instruit, nous élève parfois et nous aimons l'écouter. Christian Langlois, lui, sera vice-président de Radio Courtoisie et animera des émissions mensuelles pendant de nombreuses années. Il sera aussi président de la presse artistique, président du conseil d'administration du musée NR, président de la maison des artistes et bien sûr, président de notre académie. Ainsi, dépassant le simple rôle d'amateur d'art dans de nombreux domaines, il apporta son énergie, ses idées et ses connaissances pour défendre et développer la place de la beauté dans l'art face à un monde contemporain qui lui paraissait l'abandonner. Né en 1924 dans une famille d'artistes, son métier sera l'architecture. Sans doute influencé par son père, architecte, qui restera toujours très proche de lui. Il rentre à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Céassal et Niermans, d'où il sortira 4 ans plus tard avec un impressionnant palmarès de succès, dont le prix Berger, qui est décerné à l'élève qui a reçu le plus grand nombre de récompenses à l'école. Il commence alors sa carrière d'architecte avec notre confrère Urbain Cassan. Il construit le parc des sports de Choisy-le-Roi ainsi que de nombreux immeubles, notamment à Rouen. Dans cette ville, tout le quartier de la cathédrale a été détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et il se passionnera sur la question portant sur l'intégration de bâtiments contemporains proches d'un monument historique et dans un tissu urbain ancien. Cette expérience lui servira lorsqu'à l'âge de 35 ans, il est retenu parmi 50 candidats de valeur pour être nommé en 1957 architecte adjoint du Sénat, puis en 1965 architecte en chef de cette maison qu'il ne quittera plus. Va commencer alors l'extraordinaire transformation du palais du Sénat qui, en une période de 6 années, de 1969 à 1975, va doubler de surface. Mais la démarche artistique de Christian Langlois va s'inscrire avec fermeté dans un positionnement qui n'est pas celui de l'architecture contemporaine telle qu'elle est reconnue en France à cette époque. Pour lui, l'architecture est un art qui a une responsabilité encore plus grande que tous les autres vis-à-vis de l'homme, car il s'agit de vivre à l'intérieur d'une démarche humaine, ville ou construction, et c'est à l'intérieur de cet environnement qu'il trouvera, ou non, la beauté, qui viendra le conduire à un meilleur niveau de compréhension du monde, à la perception de son âme. Pendant que, de l'autre côté des États-Unis, l'architecte suivait un autre chemin, ouvert par Frank Lloyd Wright et poursuivi par Louis Kahn, mouvement qui respectait les espaces fermés, les murs, l'architecture en France fut bouleversée par les théories de Le Corbusier, Mies van der Rohe, le Bauhaus et la Charte d'Athènes, qui vont établir des codes, des règles, qui ont pour but de servir l'homme d'une manière plus sociable, plus hygiéniste, plus tournée vers la relation entre les hommes, mais en abandonnant la recherche du beau. Ces codes que les architectes se devaient de suivre pour que leur création soit considérée. Il s'agissait de créer des plans libres et ouverts, de supprimer les murs au profit de poteaux et de poutres, de concevoir de nouveaux espaces abandonnant les alignements et la notion de ville ancienne. Christian Langlois considérait que l'art ne devait être soumis à aucun code, et surtout pas aux théories de Le Corbusier qu'il n'aimait pas du tout et dont il parle avec ironie. Je cite. Après des études très quelconques en Suisse, son pays natal, Le Corbusier se fit connaître dès ses débuts plus par ses conférences que par ses œuvres. Le génie de Le Corbusier fut avant tout verbal, son pseudonyme d'ailleurs, d'abord, une résonance étrange, puis des titres chocs, portant en eux-mêmes toute la puissance d'un slogan. La cité radieuse, l'usine verte, le modulor, quand les cathédrales étaient blanches, et enfin, la trop célèbre Charte d'Athènes. Puis, à l'issue de cette biographie acerbe, il conclut. Mais, à Le Corbusier parvenu au fait de sa célébrité et de sa gloire, il manquait la condition nécessaire à tout génie authentique, être méconnu. Il réussit alors l'exploit, sans précédent, de se faire reconnaître de son vivant et universellement comme le plus grand architecte méconnu du siècle. Il eut enfin droit à des funérailles nationales et prolonge aujourd'hui encore une légende, d'homme solitaire et incompris. Fin de citation. Dans le même esprit, Christian Langlois dénonce la Charte d'Athènes, un ouvrage pour lui idéologique, visant à une reconstruction ex nihilo de la cité qui constitue alors le corset de fer de l'urbanisme français. Inaugurée en 1968, la Maison des sciences de l'homme de Marcel Loss, boulevard Raspail, face aux hôtels du Tessia, constitue alors le modèle de bureau innovant qui suit les principes de Le Corbusier et que tout le monde admire. C'est dans ce contexte que Christian Langlois va inscrire son combat. Lorsque nommé en 1969, il lance les études de ses nouveaux projets pour le Sénat rue de Vaugirard. En architecte courageux, il ira au bout de ses convictions. Il reprendra le principe de son prédécesseur, Alphonse de Gisors, et soulignera l'importance des continuateurs. « C'est à eux, dit-il, qu'il appartient d'exalter l'œuvre d'origine, monument ou ville, en la développant conformément à sa morphologie profonde, et non la détruire en s'y opposant dans une démarche de rupture dictée par le souci obsessionnel d'être à tout prix le témoin de son temps. Le secret de l'immortalité ne réside-t-il pas plutôt dans la recherche des invariants de l'intemporel ? Contrairement à l'architecture d'accompagnement qui cherche à se faire oublier et à l'architecture de rupture qui cherche à se faire remarquer, mon architecture, dit-il, a pour fin de se faire aimer et admirer. Qu'on n'accuse pas mon art de concession, car ce serait du même coup condamner Molière, pour qui la règle des règles était de plaire. D'abord au peuple, aux hommes de la cour ensuite, mais seulement à ceux dont le goût était affiné, et non point aux pédants et aux doctes. L'originalité tient pour moi non à la soumission à des techniques ou du recours systématique au jamais vu, mais de combinaisons nouvelles d'éléments éternels, parfaitement adaptés par leur morphologie à la nature humaine. Ainsi, les interventions que Christian Langlois mènera au Palais du Luxembourg seront réalisées dans le respect du monument. Il restitue la cour de marbre en profitant de cette intervention pour concevoir des salles de réunion dans les sous-sols. Il construira sous les jardins un vaste ensemble pour les conférences internationales et créera de nouveaux bureaux qui s'ouvriront sur des patios enterrés. Le traitement de ces patios sera une architecture de pierre, d'esprit classique, mais d'une grande sobriété, où viendront se placer des sculptures et des fontaines de Paul Belmondo. En effet, Christian Langlois appréciait les artistes modernes qu'il connaissait bien et fera en sorte d'intégrer leurs œuvres au sein de ses ouvrages. Mais la réalisation la plus importante et qui déclenchera une véritable polémique fut son projet de bâtiment de bureau le long de la rue de Vaugirard, sur la longueur du palais du Luxembourg et lui faisant vis-à-vis. Dans le respect de son éthique, Christian Langlois concevra une façade de pierre respectant l'alignement de la rue. Il s'inscrit ainsi dans le mouvement initié aux États-Unis par Louis Kahn et développé par Venturi à la même époque, puis par Léon Krier en Europe, qui, pour les mêmes raisons et s'appuyant sur les mêmes principes, s'attachait à retrouver par le dessin les qualités de l'architecture classique. De même, il s'accordait avec Aldo Rossi en Italie, qui dans le même temps précisait « On peut comparer des éléments permanents dans l'étude de la ville à la valeur permanente dans le langage. » Ainsi, dans sa démarche, Christian Langlois, sans le savoir, participe à tout un mouvement international qui a pour nom le moment postmoderniste en architecture qui fut couronnée en 1980 par la première exposition d'architecture de la Biennale de Venise. C'est de ce mouvement qu'est issue l'œuvre de Franck Guéry. À son insu, Christian Langlois était à la pointe des recherches architecturales des années 70. J'affirme, avec un peu d'humour que j'espère tous deux me pardonneront, Christian Langlois, Franck Guéry, même combat. Mais dans le petit milieu de la culture qui établit des dictats sur l'architecture en France, le projet de Christian Langlois fera l'objet de réserves, notamment par la commission des abords des affaires culturelles qui jugeait que ce projet ne répondait pas à l'écriture architecturale moderne. C'est Alain Poher, président du Sénat, qui imposera le projet. Certes, à l'issue de sa réalisation, il sera largement loué par le public et par la presse, mais j'ai ressenti cependant dans les écrits de Christian Langlois, à l'issue de cette polémique, une certaine blessure qui le pousse à maintes reprises à expliquer ses convictions. Écoutons-le. Avoir la détermination de se forger une personnalité suffisamment forte pour ne pas être contraint de renier notre filiation, cette filiation inscrite dans nos gènes de manière indélébile, mais au contraire de l'accepter en pleine connaissance de cause. Ainsi se dissoudra d'elle-même l'arme de guerre la plus perfide qu'est l'homo pastiche. À l'issue de ce vaste chantier, Christian Langlois a reçu de nombreuses commandes de projets porteurs d'une démarche identique à celle conduite pour le Sénat. La préfecture de Nancy, près de la place Stanislas, le Parvis devant la cathédrale d'Orléans et beaucoup d'autres projets à Paris. Toute sa vie, Christian Langlois s'est battu pour la beauté dans l'art. Il écrit « Renouer avec l'héritage, s'ancrer dans notre nature profonde, pour ensuite se diriger vers un avenir nouveau, en pleine communion avec ceux auxquels elle est destinée, est pour l'architecture une nécessité absolue. » Ce sont ses termes, mais ce pourrait être les miens ou ceux de chacun d'entre nous. Communion. Cet élan que François Scheng évoquait en parlant de la création artistique, cette notion si différente de la communication qui caractérise l'art contemporain aujourd'hui dans le marché des expositions et des foires internationales. À partir de l'œuvre provocatrice de Marcel Duchamp, décrétant qu'une cuvette, si on la dénomme œuvre d'art, devient une œuvre d'art, l'art se sépare du beau. Il devient œuvre de la pure raison, du concept, et se développe pendant le XXe siècle pour occuper aujourd'hui tout l'espace, asphyxiant ainsi les artistes qui ne sont pas dans cette démarche. Cet art de la raison, qui, comme le précise Luc Ferry, a réussi la banalisation d'une production qui se veut créer du jamais vu et dont la seule justification est le jamais vu. Et Jacques Attali rajoute « Le contemporain est le neuf pour le neuf, à tout instant, sans aucun sens, ni celui de l'accélération du savoir ou des richesses, ni celui de l'amélioration du bien-être, juste l'apologie du changement pour lui-même. » Comme si la juxtaposition d'instants pouvait donner l'illusion d'éternité. Au XXIe siècle, les avant-gardes sont de plus éphémères. Elles ont tout en commun le relativisme, le mélange, la parodie, le kitsch et l'usage des symboles de la société enfantine. En art, l'œuvre à la mode ne peut être que contemporaine, dépassée dès qu'elle est montrée. Il n'est pas question ici de nier la richesse, la diversité, la créativité des artistes d'aujourd'hui qui s'attachent à répondre à la phrase de Gilles Deleuze « Quoi de plus gai que le moment présent ?» même s'ils la traduisent le plus souvent comme « Quoi de plus angoissant que le moment présent ?» mais plutôt de prendre conscience qu'un art plus sensible peut recevoir lui aussi de la reconnaissance, comme cela a été le cas jusqu'à la fin du XXe siècle. Formons le vœu que, de cette période qui se nourrit du chaos, se développe une nouvelle source de création, plus connectée avec la beauté. Car la beauté est universelle. La beauté s'impose et est incontestable. Elle provoque la même émotion à tous les hommes sur la terre, quelle que soit l'époque, la race, la religion, la culture. Chaque être humain est ému par la beauté d'un coucher de soleil, par la mer, le désert, les grands fleuves, les monts, les forêts, le ciel et son firmament. La beauté dans l'art, création humaine, permet d'accéder à la communion avec l'âme, sans s'opposer à la raison qui peut en être le chemin, mais en allant au-delà de celle-ci. C'est dans le tracé de ces chemins que réside le talent de l'artiste. La beauté est l'accès pour l'homme à un certain niveau de perception du monde que l'on peut appeler la spiritualité. Nier le beau, l'abandonner, c'est en fait abandonner l'art aux forces de l'argent. Et il me vient à l'esprit un parallèle entre cet abandon et l'abandon et le carnage de notre terre elle-même au profit d'autres pouvoirs. Se battre pour la beauté dans l'art, c'est se battre tout simplement pour la beauté dans notre monde. C'est se battre pour le bonheur qu'elle apporte aux hommes. C'est se battre aussi pour la sauvegarde de notre planète et de son intégrité. L'art conduit l'homme à la bonté, à l'amour, au regard, loin de la barbarie que peut être parfois la technologie numérique. L'art développe la beauté et permet à l'homme d'accéder à ce qu'il y a de plus beau en lui. Mais l'art qui renie la beauté, c'est aussi l'homme qui renie sa terre. Tout est lié. Christian Langlois, par son engagement dans tous les domaines de l'art, a défendu ses valeurs. Je suis honoré de saluer aujourd'hui sa mémoire. Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à vous tous qui êtes ici ce soir pour cette cérémonie très singulière pour moi, ma famille, mes familles, ma compagne, mes amis, à Yves Boiret, mon guide et mon modèle. Si j'ai pu réaliser tous les beaux projets qui ont embelli ma vie, c'est grâce aux maîtres d'ouvrage et au ministère de la Culture qui me les ont confiés et financés. Toutes ces personnes, souvent dans l'ombre, passionnées par leurs tâches et qui m'ont apporté leur confiance et leur soutien. Je leur dis merci. Et je pense aussi à tous les absents, ceux qui m'ont fait évoluer dans mes connaissances, dans ma perception du monde, dans mon métier, et spécialement à tous les compagnons qui m'ont permis d'accéder à leur savoir-faire et à en saisir le sens. Ce mot si particulier qui parle de nos sens, de nos sensations, qui indique la direction et aussi la signification. Ces compagnons et ces métiers qui participent à la beauté, à la richesse et à la transmission de notre culture. Je souhaite les associer à l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Je vous remercie.